Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais faire avec vous une lecture dans le psaume 25. Dans le psaume 25, nous avons justement un texte qui s'adresse pour les gens qui ont besoin de faire des choix. Vous savez que la vie est faite de choix et que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour choisir. Donc dans le psaume 25, au verset 12, il est clairement dit ceci. Psaume 25, verset 12. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Et vous avez vu la suite. « Son âme reposera dans le bonheur. » Car lorsque l'on fait les choix que Dieu veut que nous fassions, eh bien notre âme est dans la paix. Et Dieu est un Dieu de paix. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et ce soir, je voudrais justement vous parler de quelques versets que le Seigneur veut nous rappeler pour que nous puissions bien choisir. Premièrement, dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, il y a un verset moi, qui m'a beaucoup interpellé à une époque où quelqu'un était dans le chagrin depuis 2 ou 3 ans, suite à un deuil. C'est dur un deuil, je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, c'est dur, mais je crois que Dieu change le deuil, il peut changer le deuil. Et dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, voilà que Dieu dit ceci, « Banni de ton cœur, le chagrin. » Rappelez-vous le premier verset, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?» S'il y a bien quelque chose qui caractérise quelqu'un qui a la crainte respectueuse de Dieu, c'est quelqu'un qui va être soucieux d'écouter les instructions de Dieu. Quelqu'un qui est dans le deuil depuis 3-4 ans peut entendre « Banni de ton cœur, le chagrin. » Il y a quelque chose qu'il faut absolument régler, pas s'installer continuellement dans le chagrin, même si le chagrin est nécessaire pendant quelques semaines, pendant quelques mois, voire pendant un an, mais quand même, Dieu dit, bannis de ton cœur le chagrin. Revenons à ce premier verset, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Nous allons lire notre texte, là il nous est demandé de bannir le chagrin. Dans Ésaïe 54, il nous est demandé de bannir autre chose. Ésaïe 54, il y a des choses dont on doit se séparer. Ésaïe 54, verset 14, tu seras fermé par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Amen. Donc si on mettait ces deux versets ensemble, il nous demandait de bannir le chagrin, de bannir l'inquiétude et de bannir la peur, la frayeur. La frayeur, c'est une grosse peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une grosse, grosse peur, mais Dieu nous demande de faire certaines choses. L'Éternel montre aux hommes qui ont la crainte respectueuse de sa parole les choix qu'ils doivent faire. On a chanté un cantique que j'aime beaucoup, les autres tous, mais celui-là en particulier, qu'il est un fleuve. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. C'est un magnifique cantique. Sincèrement, bon, c'est tiré du psaume 47, si je me trompe, mais c'est un très beau cantique qui exprime la vie qui peut couler dans le cœur de quelqu'un lorsque cette personne a soif. Et Jésus a dit, souvent ce cœur a été conjugué à ce texte de l'Écriture, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleraient de son sein, il disait cela, de ceux qui devaient recevoir l'Esprit. Donc une chose est sûre, on peut avoir soif de Dieu. Je pense que la raison de notre présence ici est en vérité cette réalité, on a soif de Dieu. Mais on ne peut pas dissocier la soif de Dieu à l'obéissance à Dieu. C'est impossible. On peut le faire, bien sûr, mais en vérité, la soif de Dieu ne peut qu'être liée à l'obéissance. D'ailleurs, il est dit de cela, de ceux qui devaient recevoir l'Esprit. Donc, de ceux et de celles qui vont avoir envie d'obéir à Dieu. Parce que si j'ai soif de Dieu et qu'en même temps, je n'obéisse pas à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens sont frustrés parce que d'un côté, ils pensent qu'ils veulent être près de Dieu, mais ils n'ont pas soif de Dieu. Ils ont soif de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on peut avoir soif de plein de choses ? De quoi il est dit dans la Bible qu'on peut avoir soif ? Voilà, heureux ceux qui ont faim et soif de Jésus. C'est où ?
Dans la Bible.
Dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Pas soif de vengeance. Vous voyez, c'est des choses qui... Parce qu'il y a des... Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait plus soif de vengeance que de justice. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. La justice, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est juste d'entendre Dieu nous dire « bannis le chagrin de ton cœur », voilà, c'est juste. Dieu le dit, donc c'est quelque chose de juste, c'est intelligent. Si Dieu nous le demande, c'est quelque chose d'intelligent. C'est ça la justice, en résumé. Mais je le répète, la soif de Dieu doit impérativement être conjuguée avec le désir de lui obéir. Sinon, nous resterons frustrés et nous passerons à côté de ces fleuves, de ce beau cantique. Parce que quand même, chanter un cœur comme ça, même s'il est vieux, c'est quand même extraordinaire, l'amour de Dieu, comme un vaste océan, inonde mon cœur, etc. Je veux dire, il faut absolument le vivre. Et Dieu veut. La bénédiction, elle est liée à l'obéissance. Souvent, moi j'ai entendu parfois des prédications où on présentait la bénédiction comme quelque chose qui était voilà, carré, etc. Non, la bénédiction, elle est souvent liée à l'obéissance. Rappelez-vous quand Dieu a mis Abraham à l'épreuve, et quelle épreuve ? À la fin, Dieu dit, voilà, je te bénirai parce que tu as obéi à ma voix. Je te bénirai parce que tu as obéi. Dieu ne bénit pas n'importe comment, même s'il fait, il peut accorder certaines bénédictions à tout le monde parce que nous sommes ses enfants, il y a quand même des bénédictions profondes qui sont le résultat de nos choix. Par exemple, Proverbe 28:20, ne le cherchez pas, un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est quoi pour vous? C'est un commandement? C'est une promesse? C'est quoi? Un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est une promesse. Mais quand même, cette promesse, elle est liée à l'obéissance. Un homme fidèle. Donc c'est un verset, on pourrait en prendre des centaines, on n'a que l'embarras du choix. C'est clair, un homme fidèle, donc un homme qui obéit à Dieu, est comblé de bénédictions. On ne peut pas dire n'importe comment, voilà, oh les gens ils sont comblés de bénédictions, ce n'est pas vrai. C'est un homme fidèle, donc on pourrait dire un homme qui obéit est un homme qui verra la bénédiction du Seigneur. Parce que cette soif de bénédiction est conditionnée par un état d'obéissance. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Donc, si vous avez soif ce soir de cette grâce que Dieu veut vous donner, parce que Dieu donne sa grâce, il faut absolument régler le problème, par exemple, du doute, du chagrin, on l'a vu, de l'inquiétude, de la frayeur. Il y a des gens qui ont toujours peur. Il y a des chrétiens qui ont peur. C'est terrible ça. Parce que le problème, c'est que non seulement ils ont peur, mais ils communiquent la peur aux autres. Je vous parlais là, quand j'avais commencé l'étude sur le repos, de cette chrétienne qui m'avait dit « Mais je fuis les chrétiens parce qu'ils me communiquent des angoisses. Si vous êtes dans la paix, vous procurerez la paix. » Si vous êtes angoissé, ne croyez pas, pendant 5 minutes ça va marcher, mais après vous allez communiquer de l'angoisse, c'est évident. Donc, quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Et quand j'ai prié pour cette réunion, j'avais ces deux versets, bannis l'inquiétude et bannis le chagrin. Car s'il y a bien des choses qui bloquent la vie spirituelle, c'est justement ces malaises, ces troubles, c'est dommage. Et c'est dommage d'avoir une foi qui soit complètement bloquée alors que nous avons un Dieu qui veut lui nous rendre heureux. Alors, une foi qui n'est pas affermie, c'est terrible. Vous rappelez ce texte? On va le lire on le connaît bien ce texte. C'est dans Jacques, au chapitre 1er. Moi, c'est un texte qui m'a souvent fait réfléchir, j'y pense très souvent d'ailleurs. Dans Jacques, au chapitre 1er, il nous demande d'accepter les épreuves, toutes les épreuves. Bon, ça c'est déjà une autre paire de manches. Accepter toutes les épreuves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Toutes les épreuves. C'est écrit. C'est dans ce contexte-là où il nous est quand même demandé de prier pour qu'on obtienne de la sagesse, ça se comprend très bien. Et il ajoute au verset 6, « Mais s'il demande, qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. » Donc, Jacques l'explique clairement, il faut une foi ferme. Quand Dieu demande quelque chose, il faut le faire. Si un homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et quelqu'un qui entretient continuellement le doute, la crainte, le chagrin, l'inquiétude, comment voulez-vous qu'il obtienne la paix ? Et moi, je vous assure, je suis peiné. On parlait tout à l'heure avec M. Houllet, des gens qui, malgré le fait qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, n'ont fait aucun progrès. Et ça s'explique par le fait que, malgré le fait qu'ils aient fait une expérience avec le Seigneur, ils n'ont pas compris qu'il y avait des choix à faire dans la vie. Les épreuves, elles sont le lot de tout le monde. C'est moi, quand quelqu'un me dit « Mais vous êtes resté fidèle toute votre vie parce que vous n'avez pas eu d'épreuves. » Écoutez, moi je vais vous dire, les chrétiens fidèles ou pas, on a tous des épreuves. Tous des épreuves. Vous n'avez jamais eu d'épreuves, puisque vous êtes là ce soir. On a tous eu des épreuves. Mais c'est d'une bêtise pas possible de dire à quelqu'un qui restait fidèle qu'il n'a pas eu d'épreuves. C'est d'une bêtise totale. C'est pas, ça n'a rien à voir. Les épreuves, ça fait partie de la vie. Elles sont le lot, comme la bénédiction d'ailleurs. Dieu nous bénit, Dieu nous éprouve, ça fait partie de la vie. Et nous devons parfois même être affligés. C'est même important parfois que nous traversions certaines afflictions. On va lire aussi dans 2 Corinthiens. Les épreuves, acceptent, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un me disait la semaine dernière, est-ce que parce que je suis dans l'épreuve, est-ce que je suis dans le péché? Je lui dis, écoutez, si vous étiez dans le péché, je pense que vous le sauriez. On le sait quand on est dans le péché, oui ou non? Si on ne le sait pas, c'est que vraiment on est loin de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne sait pas qui est dans le péché, c'est que vraiment il est dans un aveuglement et une surdité totale. Mais l'affliction, ça peut arriver. Regardez dans 2 Corinthiens 1, c'est important ce texte. Parce qu'il ne faut pas s'affoler parce qu'on traverse un moment difficile. Voyez, 2 Corinthiens chapitre 1, on va lire au verset 3. C'est important parce que ça vous aidera à mieux comprendre la suite. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et notre Dieu s'appelle le Dieu de toute consolation. » Vous le croyez ça? « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, etc. Donc on voit bien que Dieu permet parfois que nous soyons affligés pour que nous expérimentions la consolation, pour qu'à notre tour, nous puissions consoler ceux qui sont affligés. Ça explique très bien ce qu'est la vie. Là, c'est dans le domaine de l'affliction. Mais dans tous les domaines, on peut traverser quelque chose pour en être béni. Je dis bien, ce n'est pas parce qu'on est affligé qu'on va consoler quelqu'un. On est affligé, le Seigneur nous console et à notre tour, on devient capable de consoler. Moi, je me souviens d'une sœur avec qui ça s'est mal passé parce qu'elle disait à tout le monde, « Oui, moi, j'ai traversé les épreuves, je peux te comprendre. » Parce que moi, j'ai traversé... Mais elle était dans une amertume et une amertume pas possible. J'ai dit, « Oui, vous avez été affligé, mais vous n'avez pas été consolé par Dieu. » Parce que pour consoler quelqu'un, il faut avoir reçu la consolation du Seigneur. Et je crois que bon, c'est quand même écrit, c'est d'une simplicité totale. Les persécutions, les afflictions, les épreuves, tout ça, ça fait partie de la vie. Et ça peut même augmenter notre foi si on les accepte. Tandis que les inquiétudes, les doutes, le chagrin, etc., cela provient d'un manque de foi. Et je crois que nous qui sommes ici ce soir, nous devons bien comprendre une chose, c'est que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et quand on commence à manquer de foi en Dieu, comme disait si bien M. Houllet tout à l'heure, quand on commence à ne pas croire ce que Dieu dit, eh bien on a vite fait d'être troublé, d'être découragé et d'être dans la défaite. Un chrétien qui doute, c'est un chrétien, on l'a lu, irrésolu, ça veut dire incertain, il ne sait pas trop ce qu'il veut, un jour c'est bien, le lendemain ça va pas, on le voit ça déjà. Vous discutez avec eux le soir, « Ah, je sais, monsieur Gou, il me faut pas m'inquiéter. » Le lendemain, vous les avez au téléphone, « Ouais, j'en ai marre, je ne sais pas si j'aurai du boulot. » Ah ouais, d'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce sont des chrétiens qui vivent dans cet état d'esprit de défaite parce qu'ils ont une foi. C'est un chrétien irrésolu, incertain. Il ne sait pas ce qu'il veut, il est là, il est perplexe, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Et je pense que ce soir, si on est venu, c'est quand même pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous voulez recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Dieu a des choses à vous donner. Dieu est un Dieu qui donne, vous le savez, je c'est même pas la peine d'en parler. Dieu donne. Et d'abord, pour qu'il puisse bien nous donner, il nous a d'abord donné à chacun une mesure de foi. C'est écrit, peut-être, non, moi j'ai pas la foi. Ce n'est pas vrai. C'est comme quelqu'un qui se mettrait les bras derrière le dos et qui dit, non, j'ai pas de bras. Dieu m'a pas donné de bras. Mais si, regarde bien derrière. Mais c'est exactement la même chose. C'est sûr que si vous n'utilisez pas les bras, vous pouvez en déduire au bout de quelques semaines que vous n'en avez pas. Mais c'est exactement pareil avec la foi. Dieu nous a donné à tous une mesure de foi. Mais voilà, Êtes-vous victime de ces émotions, de ces sentiments, de ces impressions, de vos idées? Voilà, le doute. Moi, je suis peiné quand je vois des chrétiens douter. Des vrais chrétiens, je parle, qui vivent dans le doute. Ah, moi, je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. J'ai entendu la semaine dernière. Oh, je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Dieu m'aime? Ça paraît quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de l'humilité? Est-ce que c'est de l'intelligence? Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez jamais entendu ça? Ah, moi non, je ne mérite pas que Dieu m'aime. Ah non, moi je ne suis pas assez bon. Vous savez, avec toutes les bêtises que j'ai faites, qu'est-ce que vous voulez que Dieu m'aime? Ah, mais moi, vous savez, je ne suis pas instruit. Vous savez, je n'ai pas été à l'école. Oui, c'est dit. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je lise la Bible? D'ailleurs, je comprends pas la Bible. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est spirituel? Vous voyez, on l'entend ça. Ah, moi, je ne suis pas de la même culture. Moi, je viens d'Afrique, vous savez. Alors, la Bible, c'est la même en Afrique. Il n'y a pas une Bible pour les Français, une Bible spéciale, Afrique ou spéciale, Antilles, etc. Vous voyez, ce n'est pas de l'humilité ça, c'est de l'orgueil. Parce que quand quelqu'un commence à dire Dieu ne peut pas m'aimer, c'est complètement contraire à la parole de Dieu, parce que Dieu dit qu'il aime tout le monde et qu'il nous aime d'un amour parfait, d'un amour éternel. Dieu vous aime. Et voyez, ce n'est pas de l'humilité. Moi, quelqu'un jour me dit, oui, ma maman, c'était ici, mais ma maman, vous savez, elle est humble. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Alors, ça crée une explication. Ça dure un moment. Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité de dire que Dieu ne peut pas nous aimer parce que nous sommes ceci, parce que nous avons été comme cela. C'est du doute. Si Dieu dit qu'il vous aime, croyez-le. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Un homme qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui croit ce que Dieu dit. Et si Dieu dit qu'il vous aime, il vous aime. Voilà, c'est important. Douter de l'amour de Dieu, ça peut devenir un véritable péché. Parce que si vous pensez que Dieu ne peut pas vous aimer, vous allez vous éloigner de Dieu et vous ne recevrez jamais sa faveur et sa bénédiction. Pourquoi est-il écrit plusieurs fois « Dieu fait grâce aux humbles » et il résiste aux orgueilleux? Vous l'avez lu plusieurs fois ça. Dieu fait grâce aux humbles. Eh bien parce que celui qui est humble, la véritable humilité, c'est quoi la véritable humilité? Dieu dit qu'il m'aime? Eh bien je le crois. C'est ça l'humilité. Donc Dieu fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui dit, oh non, mais moi vous savez, j'ai pas été à l'école. Et alors, c'est pas parce que vous n'avez pas été à l'école que Dieu va pas vous aimer. Vous voyez cette idiotie. En tous les cas, c'est tout sauf la crainte de l'Éternel. La véritable humilité, ça consiste à croire ce que Dieu dit. Et si Dieu dit qu'il vous aime, laissez-moi vous dire qu'il vous aime. La véritable humilité, ça accepte la bonté. Si Dieu vous dit qu'il veut veut vous accorder sa bonté, croyez-le. Ce soir, qui que vous soyez, vous pouvez être au bénéfice de la bonté de Dieu. Bien sûr que la véritable humilité nous fait prendre conscience de notre misère. Est-ce que vous en êtes conscient de votre misère? Est-ce que ça vous est arrivé de chanter avec beaucoup d'aisance « Je n'ai que ma misère » Ça vous est déjà arrivé de chanter « Seigneur, je n'ai que ma misère » Des fois, ça fait du bien de le chanter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous a jamais fait du bien de chanter ça? Moi, si, parce que des fois, c'est sa misère. La véritable humilité accepte que l'on ressente sa misère, mais la véritable humilité, en même temps, acceptera la bonté de Dieu, que Dieu nous offre justement parce que nous sommes misérables. Parce que ce soir, nous sommes là pour bénéficier de sa bonté. C'est dans ce but que Dieu veut que nous nous rassemblions. Alors, qui veut être, on l'a chanté, rafraîchi, il est un fleuve. Qui veut être béni? Qui veut être participant de la nature divine? Moi, je lève la main. Regardez avec moi dans Hébreux 3. Dans Hébreux 3, chapitre 14. Il nous est parlé de ceux qui sont participants de la bénédiction. Ça doit vous intéresser, je pense. En tous les cas, moi, ça m'intéresse. Hébreux chapitre 3, verset 14. C'est un chapitre qui mérite d'être médité pour comprendre très bien cette prédication. Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, donc participants de cette bénédiction, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Ce texte est le contraire vraiment de la foi. Retenir fermement l'assurance. C'est tout le contraire du doute. Du doute, pardon. C'est tout le contraire du doute. Je retiens fermement ce que Dieu a dit, je le garde, je le serre dans mon cœur. Vous le savez, c'est un principe. C'est un principe qui parcourt toute la Bible. Dans la vie spirituelle, il nous sera toujours fait selon notre foi. C'est une loi. Personne ne peut le changer, le contourner, le déroger. C'est une loi. C'est comme ça. Et il vous sera fait selon votre foi. Mais l'inverse est vrai. On peut aussi dire, je pense, il vous sera fait selon vos doutes. Celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et un chrétien qui a la crainte, il pense que ce que Dieu dit est plus important que ce que lui, il dit. Qu'est-ce que vous dites ? Que Dieu ne vous aime pas ou que Dieu vous aime ? C'est quoi le plus important ? Si vous dites Dieu m'aime, c'est comme ça, quelle grâce, ça fait lumière dans mon cœur, eh bien vous êtes en adéquation avec Dieu. Si vous commencez à dire oui, mais j'ai passé une mauvaise semaine, peut-être que Dieu m'aime moins que lundi, ou jeudi dernier, parce que j'ai pas. Mais je peux vous dire que vous n'êtes pas dans la foi. Dieu vous aime inconditionnellement. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 3, regardez au verset 18. C'est tout ça, ça s'explique bien. Regardez, alors que Dieu voulait les bénir. Croyez-moi, Dieu voulait les bénir. Et il l'avait dit. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 18 ? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voyez, Dieu voulait les bénir. Dieu voulait les bénir, mais ils ne purent pas rentrer dans le pays de la promesse parce que le doute s'est transformé en incrédulité. Et l'incrédulité, ben ça ferme la porte. C'est exactement ça. Ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et pourtant, croyez-moi, Dieu voulait vraiment les bénir. Et ce soir, croyez-moi, croyez-le, Dieu veut vous bénir. Mais si vous vous amusez à entretenir le doute, tout ça, ça peut se transformer en incrédulité et ça vous fermera la porte. C'est pareil pour le salut. Pourquoi les gens ne sont pas sauvés ? Eh bien parce qu'ils ne croient pas. Comment on obtient le salut ? Par des œuvres, par des mérites, par l'argent ? Par l'argent quand même. Allez, n'enregistrez plus, mais on va parler quand même. Quand même, l'argent. Mais on obtient, vous savez qu'on ne peut pas obtenir le salut par l'argent, par les mérites, par les œuvres, par tout ce... Voilà. Le salut, c'est un don. Est-ce que c'est écrit que c'est un don ? Donc, un don, ça s'accepte. On ne peut pas être sauvé en dehors du sang de Jésus-Christ. Donc, c'est un don. On sait tous qu'on ne peut pas se payer le salut. Qui peut payer le sang de Jésus-Christ ? Qui se présente ? Voilà, je suis très, 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 très intéressé. Ce don, nous l'avons accepté par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le don de la foi. Donc la foi, c'est quand même le moyen pour obtenir le salut, même si c'est par grâce, même si c'est un don. Mais la foi, c'est exactement le moyen pour obtenir tous les autres dons. Il n'y a rien à ressentir. Je me rappelle une fois, il y avait une sœur, quand elle priait, elle se mettait à pleurer. Alors elle discutait de choses et d'autres, puis dit « on va prier ». Elle se mettait à pleurer. Alors j'ai dit, c'est bizarre, quand elle prie, elle pleure. Alors je vais la voir, j'ai dit, mais écoutez ma soeur, je suis quand même perplexe. Pourquoi, dès qu'on se met à prier, vous vous mettez à pleurer ? Regarde, avec des yeux ronds, je me rappelle, elle me dit, mais je ne sais pas trop, c'est-à-dire que la première fois que j'ai été exaucé, j'ai pleuré. Alors maintenant, quand on prie, je me fais pleurer. Hein, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et j'ai dit, vous croyez que vous avez besoin de vous faire pleurer, d'ajouter à la fois les pleurs, et cette sœur, elle a mis du temps à le comprendre, et elle a compris au bout de quelques semaines qu'elle était en train d'ajouter à la foi des émotions qui n'avaient pas de place. Après, si on pleure parce qu'on est dans le deuil, c'est normal. Est-ce que ça peut arriver de pleurer ? Bien sûr, mais je ne vais pas rajouter, il n'est pas dit, il vous sera fait selon la foi et les pleurs. Selon la foi et les émotions, selon la foi et le ressenti, selon la foi, je ne sais pas, mais votre bonne volonté. La foi, comme disait M. Olé tout à l'heure, c'est la foi en Dieu. Et voyez, et ça génère de plus en plus le doute dans notre cœur. Vous n'avez pas. Une sœur me disait, qui vient ici parce qu'elle était dans une église, je vous le dis, je vous dis pas ça pour critiquer, mais on leur a enseigné que pour être exaucé, il fallait répéter continuellement et taper des mains et crier. Et dans l'église, elle me dit, dans l'église où j'étais, tout le monde crie, tape des mains et répète continuellement la requête. Bon, je ne vous dis pas à quoi ça me fait penser, mais franchement, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il n'est pas dit, il vous sera fait selon la foi et le claquement des mains. Vous voyez, il vous sera fait selon votre foi. Vous, si vous avez lu la parole de Dieu, vous avez lu que sur la terre, rien n'a jamais empêché Jésus de bénir. Sauf dans son propre village, il nous est dit qu'il ne pu faire des miracles à cause de leur incrédulité. Vous pourrez le vérifier dans Matthieu 13 si ça vous intéresse. Dans son propre village, vous rendez compte, là où il était né, là où il avait ses amis, ses voisins, il n'a pas pu faire. Pourquoi ? Parce que l'incrédulité bloque la puissance de Dieu. Et si vous commencez à vivre dans le doute, vous n'obtiendrez pas. C'est pour ça que j'ai pris ce verset, j'aurais pu en prendre d'autres, ce verset du psaume 25. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Et si ce soir, d'une façon ou d'une autre, Dieu vous dit, mais bannis l'inquiétude, bannis la frayeur, bannis le chagrin, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous ne verrez pas la grâce de Dieu dans votre vie. Pourquoi Jésus a demandé à ceux qui voulaient le suivre ceci ? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mais ça veut dire quoi ? Dans le contexte, Pierre pensait que Jésus ne devait pas mourir sur la croix, que Pierre ne devait pas être crucifié, etc. etc. Et c'est là que Jésus dit, donc, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Car tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu. Donc il faut savoir renoncer à nos pensées, renoncer à nos doutes, renoncer à nos inquiétudes. Si Dieu dit bannis l'inquiétude, moi je crois que c'est quelque chose de sérieux. Parce que tout est fait pour qu'il y ait de l'inquiétude, oui ou non. Vous avez vu dans tous les domaines, si le Seigneur le dit, il vous faut le prendre vraiment au sérieux. Il vous faut croire ce que Dieu dit. Tant que vous douterez, vous hésiterez. Et que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Peut-être que vous vous imaginez, peut-être que vous doutez, que vous douterez toujours. Il y a des gens, ils sont dans cet état d'esprit. De toute façon, moi j'ai toujours douté, donc je douterai toujours. Si c'est comme ça que ça part vraiment très mal. Et combien sont bloqués à cause de situations pareilles ? Vous voyez ce que Dieu a pardonné mon péché ? Ça, je l'entends souvent, dans des entretiens, ça revient, hélas, régulièrement, oui, vous savez, monsieur Gou, j'ai fait ça, même avant ma conversion, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné ? Est-ce que Dieu dit qu'il pardonne tous nos péchés ? Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que c'est écrit, tout péché et tout blasphème sera pardonné ? Est-ce que c'est écrit ? Oui, c'est écrit. Si Dieu l'a dit, c'est la vérité. La foi le reçoit. Si Dieu dit qu'il pardonne, je choisis de croire que Dieu pardonne. Je suis son enfant, donc je suis pardonné. Il faut renoncer à douter, de la même manière que peut-être il faudrait renoncer à voler. Moi, c'était un de mes problèmes avant ma conversion, j'avais pris l'habitude de voler. Un jour, j'ai renoncé à voler. Ça n'a pas été compliqué. Voilà, vous inquiétez pas, ici, disparaît. S'il y a un trombone, c'est pas moi qui le prendrai, qui manque. Je veux dire, est-ce que c'était un choix ? C'était un choix de renoncer à voler ? Oui. Eh bien, c'est exactement la même manière pour le doute. Je renonce à voler, je renonce à commettre l'adultère, je renonce à ceci, je renonce à douter. Pourquoi ? Parce que Dieu me le demande. Et je voulais indiquer que c'est un engagement. Et quand vous voyez par exemple David, je voulais prendre le psaume 119, verset 30, quand David dit « Je choisis la voie de la vérité ». C'est un choix. Je choisis la voie de la vérité. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie. Ce soir, Seigneur, tu me montres la voie que je dois choisir. Tu me montres et tu me rappelles de cette façon-là que je dois bannir l'inquiétude. Parce que tu n'as rien à craindre. Parce que tu es mon enfant. Et si Dieu vous le demande, faites-le. Vous allez honorer Dieu. Tout à l'heure avec Michael, on lisait ce verset. Quand Dieu dit à Élie, le sacrificateur, « J'honorerai celui qui m'honore, et je mépriserai celui qui me méprise. » Ça ne veut pas dire que Dieu nous méprise, mais c'est pareil, ça revient au même, puisqu'on s'éloigne de lui, puisqu'on se soustrait à sa bénédiction, ça revient exactement au même. Mes frères et sœurs, il y a un engagement à prendre. Je suis convaincu que la soif de Dieu, ce fleuve que l'on vient d'évoquer dans ce petit cœur, nous parle également de l'importance de comprendre ce que c'est un engagement. Marie a choisi la bonne part. Elle avait choisi, malgré tout le travail qu'il y avait à faire, de se tenir dans la présence du Seigneur, et que je crois que ça valait la peine. Elle a choisi. Et souvent on est là, oui, la foi. Mais la foi, ce sont des choix. Dieu l'a dit, c'est sérieux. Il y aura des combats, il y aura des luttes, des tentations, de l'adversité, etc. Toutes ces choses, on le sait, ça va se présenter plus ou moins, nombreux, pas nombreux, c'est pas grave. Je fixerai mes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, quels que soient les combats que je devrais traverser. Pourquoi il est demandé? Je termine avec ça. Mais pourquoi il est demandé? Prenez par-dessus tout, par rapport au combat, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, je termine avec le verset avec lequel j'ai commencé. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ce soir, choisissez cette foi simple. Choisissez de bannir l'inquiétude, de bannir la frayeur. N'ayez pas peur du lendemain. N'ayez pas peur de cette situation. N'ayez pas peur de ce que le chagrin vous envahit. Il y a déjà, ils sont dans la dépression. Est-ce que ça peut arriver, une dépression? Oui. Nathanaël Koudougou nous l'a rappelé dimanche matin. Ça peut arriver, et ça arrive aux hommes de Dieu les plus renommés. Mais je crois qu'à un moment donné, si Dieu nous dit bannis le chagrin, quand Dieu dit dans l'évangile, ne pleure pas. Si moi je vous dis ne pleure pas, ne pleure pas. Bon, si c'est moi, vous pouvez ne pas en tenir compte. Mais quand Dieu le dit, vous comprenez ce que je veux dire? Nous on peut dire, on peut taper sur l'épaule de quelqu'un, mais t'inquiète pas trop, tu verras, ça va s'arranger. Le gars il le croit, il le croit pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand Dieu vous dit, ne pleure pas, c'est que derrière, il a ce qu'il faut pour consoler. Si Dieu vous dit, ne t'inquiète pas, c'est que derrière, il doit avoir les moyens de pourvoir. Si Dieu vous dit, bannis la frayeur, c'est que derrière, il doit certainement avoir quelque chose pour vous communiquer sa paix. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Vous savez, à la croix, quand il est, Paul dit, mais si Dieu vous a donné Jésus-Christ, à combien plus forte raison il vous donnera toutes choses avec lui. Et ce soir, il savait que nous serions là. Il savait qu'il y a des choses qu'il faut choisir. Il savait qu'il y a des bénédictions qui passent, non pas que par la soif, mais par l'obéissance. Seigneur, ce soir, tu me montres que je dois choisir. Parce que peut-être que vous êtes entouré que d'incrédules. Il y a des chrétiens, bon, ils sont entourés avec des gens bien. Ça fait ça arrive des fois. On peut passer une journée, on est entouré qu'avec des gens qui sont bien, spirituels, ça fait que c'est facile. Mais vous pouvez, hélas, vivre avec des gens qui sont vraiment pas spirituels. Et Dieu vous dit, mais ne t'inquiète pas. T'as mieux si tu es avec des gens qui sont bien. Mais même si tu es avec des gens qui sont pas bien, choisis ma parole. Vous savez, si Dieu a tant donné sur la croix, vous pouvez vous attendre à ce que le reste, il le fasse. Alors j'aimerais qu'on ferme les yeux, vraiment simplement. Et qu'on dit, Seigneur, je veux arrêter de douter, je veux arrêter. Je vais arrêter de douter, je vais arrêter de m'inquiéter, d'avoir peur. Tu me montres, Seigneur, la voie que je dois choisir. Tu me le montres, Seigneur. Seigneur, nous le montre ce soir. Vous savez, ce sont des exhortations toutes simples, mais en vérité, elles sont profondes, parce que Dieu nous montre ce qu'il faut faire. Qu'as-tu choisi, mon frère? Qu'as-tu choisi, ma sœur? Que vas-tu choisir? Vas-tu juste dire, oui, j'ai soif de Dieu, et continuer à désobéir à ces commandements qui génèrent le fleuve? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Seigneur Jésus, c'est une grâce de nous retrouver dans ta maison, de chanter des cantiques, de prier. Et je suis convaincu que tous dans ce lieu, nous pouvons confesser qu'un jour dans tes parvis, vraiment vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelle grâce de savoir que tu as tout annoncé à l'avance pour que nous vivions dans la paix, que ce cantique que nous avons chanté est vraiment la vérité, qu'il y a un fleuve. Oui, il est un fleuve grand. Seigneur, tu vois nos cœurs. Fais de nous de ces hommes, de ces femmes qui continueront à choisir. Et nous croyons que tu nous montreras la voie que nous avons toujours à choisir pour vivre dans cette bénédiction. Tu vois celui qui peut être affligé, endeuillé, inquiet, effrayé, ce soir où tu as voulu lui parler et lui rappeler qu'il devait bannir ces choses. Car derrière, oui, nous le croyons, mais Seigneur ne peut pas faire autrement, que tu as prévu tout pour pourvoir à tous nos besoins. Merci Seigneur Jésus, du fond du cœur. Merci pour ces moments sous ton regard. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.